Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, le grand jour, le grand débat. Bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, un RTL Midi presque entièrement consacré au face-à-face de ce soir. Seul et unique débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors à quoi faut-il s'attendre? Quelle sera la tactique de chacun? Les sujets clés aussi, pouvoir d'achat, Ukraine, on vous dit tout.
Et à 12h40, donc dans les coulisses des débats télévisés, ce genre de débat a-t-il déjà changé la donne? On en parlera avec Michel Cotta qui a arbitré deux de ces duels et Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive.
La question du jour sur RTL.fr, un débat entre politiciens à la télévision vous a-t-il déjà fait changer d'avis? Vous dites non massivement, 92%. Notre météo, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est bien agité sur la moitié sud.
Oui, avec des pluies marquées, localement orageuses cette après-midi sur le Languedoc-Roussillon et elles vont s'étendre ces pluies jusqu'au sud-est et la Corse. On a de la neige également à assez basse altitude pour la saison sur les Pyrénées, mais aussi sur les Alpes et puis à l'écart de ce temps perturbé, la moitié nord, avec un ciel lumineux, le tout sous des températures globalement douces, comprises entre 15 et 20 degrés.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la brutalité sociale.
Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. C'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Oui, cherchez dans vos dossiers, vous seriez bien.
Oui, je vais vous
vérifier.
Ça.
Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens.
C'est bon? Je peux parler?
C'est bon, allez-y, Madame
D'accord.
Le Pen.
Alors ça, c'était en 2017, débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. 5 ans plus tard, les revoilà donc face à face, ce sera ce soir. À suivre bien sûr sur RTL et RTL.fr, édition spéciale dès 19h15. Forcément, l'histoire ne sera sans doute pas la même. William Galibert, Thomas Després, quelle va être la stratégie, la tactique de chacun des candidats?
Chez Marine Le Pen, surtout, on ne veut pas reproduire les erreurs du débat de 2017. Sur la forme, les équipes ont vraiment envie de jouer l'apaisement, le sérieux, ne pas cogner comme un sourd. Comme il y a 5 ans, objectif, parler du fond avant tout et du programme.
Alors ça, le numéro de la candidate qui a compris, qui a changé, les équipes d'Emmanuel Macron ne l'achètent pas du tout. Ils répètent, mais c'est du bluff assez classique d'avant-match, qu'ils sentent une adversaire ultra stressée, nerveuse, qu'ils ont de quoi, je cite, la faire dégoupiller, que leur champion, là aussi, je cite, n'a jamais été aussi serein, aussi fort, et qu'il a de quoi réduire en miettes le programme du Rassemblement National.
Un conseiller de Marine Le Pen nous explique qu'on a préparé tous les scénarios, on s'attend à beaucoup d'attaques sur la complaisance supposée avec la Russie, sur la sortie de l'Europe, sur un rétablissement supposé de la peine de mort, des attaques également sur l'extrême droite, alors que Marine Le Pen veut surtout parler du fond, du pouvoir d'achat, de la retraite et du bilan catastrophique d'Emmanuel Macron.
Avec Marine Le Pen, ça sera la ruine des retraités, des salariés, des petits épargnants, voilà en gros ce que Emmanuel Macron en train de prouver ce soir. Il a fait disséquer le programme de son adversaire pour relever des incohérences, des mesures mal financées, mal ficelées. Il a aussi préparé quelques formules choc qu'il lâchera s'il le sent. Mais attention, ses conseillers lui ont répété 100 fois « Il ne faut pas que tu aies l'air trop arrogant ou condescendant face à elle ».
Le débat de ce soir est prévu pour durer 2h30, 2h30 et 8 thèmes. Premier d'entre eux, le pouvoir d'achat.
Et c'est un sujet qui est au menu de tous les débats, ou presque. En 1974, déjà, face à Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand plaidait pour une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.
La diminution de la TVA atteint 3 milliards. Les produits de première nécessité représentent 6 milliards par an, donc 3 milliards pour les 6 mois.
48 ans plus tard, en 2022, la mesure est au programme de Marine Le Pen. Du côté des associations de consommateurs, on s'inquiète bien sûr de la flambée des prix, mais aussi de la disparition annoncée du ticket de caisse. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
À partir du 1er janvier prochain, il faudra le demander, ce ticket, pour l'obtenir.
Oui, et donc forcément, on peut s'attendre à ce que de très nombreux consommateurs n'y pensent pas. Moins de tickets, ça veut dire moins de papier. C'est l'objectif de cette mesure de la loi anti-gaspillage. Sauf que pour certaines associations, c'est un moyen de défense des consommateurs qui risquent de disparaître. Au moment où le pouvoir d'achat est la première préoccupation, elle rappelle que c'est sur le ticket de caisse qu'on peut vérifier qu'une promo ou qu'une réduction est bien passée. Mais pas seulement, Mathieu Robin du FC Que Choisir.
Il faut rappeler évidemment que le ticket de caisse est une preuve d'achat, et une preuve d'achat c'est indispensable pour faire valoir ses droits quand on est consommateur. C'est le droit à la garantie quand un produit tombe en panne et qu'il faut le réparer ou le remplacer. C'est évidemment aussi le droit au remboursement d'un produit alimentaire qui serait périmé par exemple.
Même chose pour échanger un vêtement. En fait, ce que disent ces associations, c'est OK pour que le ticket de caisse ne soit plus systématique. En revanche, il doit être proposé. Les consommateurs doivent avoir le choix.
Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Autre sujet à l'ordre du jour de ce débat d'entre-deux-tours, les questions internationales et la guerre en Ukraine.
Et ce midi, tous les regards se tournent vers Marioupol. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. Voilà ce que dit ce soldat ukrainien que vous entendez, appel lancé à la communauté internationale via les réseaux sociaux. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
La ville de Marioupol est sur le point de tomber, c'est ça?
Oui, ce que confirment les experts que j'ai joints ce matin, car la situation devient d'heure en heure toujours plus intenable pour la défense ukrainienne. C'est une immense ville, Marioupol, une ville comme Toulouse, bombardée depuis 50 jours, rasée. L'armée russe a choisi cette tactique radicale. La terre brûlée. Vous avez entendu ces soldats à l'instant réfugiés dans un site métallurgique, dans le souterrain du site, qui supplie les dirigeants du monde de les extraire vers un pays tiers. Un accord a par ailleurs été trouvé avec la Russie pour les civils, un couloir humanitaire pour évacuer des femmes, des enfants, des personnes âgées. Marioupol sera la première grande victoire militaire de Vladimir Poutine et symbolique à plus d'un titre. C'est notamment le refuge d'une brigade de plus en plus connue, la brigade Azov. La chute d'Azov, à l'origine constituée de néo-nazis, aujourd'hui ultranationalistes et anti-russes, alimentera la propagande du Kremlin.
Et à l'instant, l'ONU indique que plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de cette guerre. Merci à vous, Julien Fautra, du service étranger de RTL, l'Ukraine, la Russie. La question avait déjà été abordée lors du débat de 2017, souvenez-vous.
Le conflit ukrainien, il faut désescalader. Mais en aucun cas, je ne serai soumis au diktat de M. Poutine. C'est ma grande différence avec le projet de Mme Le Pen.
Nous n'avons aucune raison de mener une guerre froide à la Russie, parce que c'est une grande nation.
William Galibert, Thomas Després, la question sera sans aucun doute, bien sûr, au cœur du duel de ce soir.
Oui, d'ailleurs, figurez-vous que le camp Macron a poussé jusqu'au bout pour que ça soit le premier thème abordé ce soir.
Tout le monde était d'accord, les chaînes étaient d'accord, le camp Macron, mais Marine Le Pen ne voulait absolument pas commencer. L'internationaliste savent que c'est pas le point fort de la candidate du Rassemblement National. Du coup, il a fallu faire un tirage au sort pour choisir le premier sujet. Résultat, c'est le pouvoir d'achat qui l'a emporté.
Et l'international sera donc abordé en deuxième position. Ça n'empêche pas que les angles d'attaque sont assez nombreux sur le sujet. Pour Emmanuel Macron, on vient d'entendre les archives, il veut aller chercher Marine Le Pen sur ses propos passés, sur la Russie, sur Vladimir Poutine, sur le financement de son parti et de ses campagnes par des banques russes ou hongroises, sur sa vision de qui sont vraiment nos alliés et quelle diplomatie elle pourrait mener si elle était élue. Et là, le président, il sait qu'il sera en attaque et qu'elle sera clairement en défense.
Marine Le Pen, elle sait que sur ces sujets-là, il y a de la fragilité. D'ailleurs, la semaine dernière, elle a tenté de déminer. Elle a fait une conférence de presse qui a duré presque 2 heures sur tous ces sujets diplomatiques et elle répond déjà à Emmanuel Macron. Le procès qu'on me fait est particulièrement injuste, a dit Marine Le Pen. Ce qu'elle veut, elle, c'est défendre les intérêts des Français et surtout, sur ces sujets, montrer sa crédibilité. Mais ils savent qu'effectivement, c'est un point de tension ce soir.
Autre question, avec qui gouvernait hier Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de cette élection, a appelé les Français à l'élire Premier ministre, à lui donner une majorité aux prochaines législatives. Ce matin, sur RTL, Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, a défendu la grande coalition des droites.
Éric Zemmour, il propose, non pas simplement autour de lui, autour de tout le monde, à égalité, il propose à Marine Le Pen, à Nicolas Dupont-Aignan et à tous les députés, j'en connais un certain nombre qui sont déjà intéressés, députés des Républicains sortants, de venir dans une grande coalition. Le grand enjeu qui est en train de se créer, c'est est-ce qu'on veut une majorité avec Mélenchon, est-ce qu'on veut une majorité avec Macron, ou est-ce qu'on veut enfin en France un vrai gouvernement de droite. Et bien pour la première fois, si les 14 millions d'électeurs qui ont voté à droite au premier tour s'unissent et se rassemblent sous la bannière de la coalition des droites et de tous les patriotes, nous pourront gouverner la France, c'est-à-dire réparer l'école, sauver notre pays, stopper l'immigration.
Et Guillaume Pelletier sur RTL ce matin, il était l'invité d'Alba Ventura.
Cette tradition du débat télévisé, elle nous vient bien sûr des États-Unis.
Lionel Gendron, chez vous, c'est toujours un moment clé des campagnes présidentielles.
Oui, et depuis le premier célèbre débat entre le vice-président Nixon et le sénateur Kennedy, c'était le 26 septembre 1960.
Good evening.
Un peu vite présenté comme un tournant puisqu'il y a eu 4 duels, Kennedy est sorti vainqueur du premier mais pas des 3 autres. Méfiants, les candidats suivants ont refusé l'exercice jusqu'en 1976. C'est actuellement une commission indépendante qui définit les règles, choisit les thèmes et les journalistes modérateurs, qu'ils plaisent ou non aux candidats. En 2020, le premier débat a eu lieu le 29 septembre, plus d'un mois avant le scrutin. Avec Donald Trump, c'est devenu un combat. En 2016, il menace de jeter Hillary Clinton en prison s'il est élu. Et en 2020, c'est Joe Biden qui dérape en lui demandant de la fermer. Écoute tonnerre, la semaine dernière, les Républicains ne reconnaissent plus la commission indépendante, jugée partiale. Ils aimeraient un droit de regard. Les débats présidentiels américains sont en danger et pourraient même disparaître.
Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux États-Unis. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le dernier épisode de sa lettre d'Amérique sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Comment les Américains voient-ils ce duel Macron-Le Pen?
Alors, un débat a-t-il vraiment changé la donne ici en France? Quelles sont ces choses qu'on ne voit pas, les tensions, les regards, les coulisses? On y revient dans quelques minutes sur RTL avec Michel Cotta, qui a animé 2 débats, et Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive.
Dans l'actualité également, ce probable nouveau féminicide. Une femme de 45 ans a été retrouvée morte hier soir, poignardée à son domicile à Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Guillaume Chiez, elle s'était visiblement séparée de son compagnon il y a quelques jours.
Oui, c'est dans le hall de son immeuble que son ancien compagnon l'a poignardée à 2 reprises avant de prendre la fuite. L'homme a été interpellé 500 mètres plus loin. À l'arrivée des policiers, il a retourné son arme contre lui et s'est poignardé au niveau de la gorge. Immédiatement pris en charge par les secours, il est en ce moment à l'hôpital. Les proches de la victime décrivent une relation conflictuelle depuis plusieurs mois, mais pas de traces de plainte. Des vérifications sont en cours pour voir si la femme de 45 ans avait ou non déposé une main courante contre lui, car cet homme est très défavorablement connu de la justice. Selon nos informations, il a déjà été condamné à 3 reprises entre 2007 et 2017 pour des violences sur une précédente compagne.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Nous sommes le 20 avril, ça ne vous a pas échappé. Et un bout de France s'est réveillé, figurez-vous, ce matin sous la neige. Neige abondante dans les Pyrénées-Atlantiques, le Béarn notamment. Elle est arrivée hier et tient au-delà de 1200 mètres d'altitude. C'est assez rare, mais pas exceptionnel à cette période de l'année.
Du foot,
ben oui, avec la 33e journée.
Il y a des choses importantes ce soir quand même, du football.
5 matchs à 19h, 5 autres à 21h et peut-être le PSG sacré dès ce soir à Angers. Tout dépendra de l'OM, deuxième au classement, et de son score face à Nantes.
Une pause et dans un instant, donc, les coulisses des débats télévisés. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
C'est sans aucun doute l'une des phrases les plus célèbres dans toute l'histoire des débats télévisés français. Certains disent même qu'elle a changé les choses à l'époque. Alors, à quelques heures du face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on se plonge dans les archives, on se projette aussi. À quoi faut-il s'attendre ce soir avec nous? Michel Cotta et Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
William Galibert et Thomas Després du service politique de RTL sont toujours avec nous. Michel Cotta, d'abord, vous êtes la seule avec Alain Duhamel à avoir animé 2 débats d'entre deux tours. 1981, vous étiez d'ailleurs journaliste ici à RTL, et puis 88. Oui. François Mitterrand, Jacques Chirac, 88. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand en 81. Est-ce que le débat de 81 n'a pas finalement un point commun avec celui de ce soir, puisque c'est le seul autre match retour de l'histoire? Vous diriez ça comme ça?
Oui, et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour un président de la République en exercice de tenir tête à son compétiteur qui, lui, n'a aucune expérience, qui n'a que l'expérience de l'opposition, alors que lui, président, il a déjà un bilan à défendre et des objectifs à définir.
Et vous diriez qu'il y a un esprit de revanche aussi, ou pas ?
Oui, il y avait quand même en 81 une sorte d'esprit de revanche de François Mitterrand qui s'était fait avoir au fond par une formule de Valéry Giscard d'Estaing sept ans auparavant et qui du coup voulait être meilleur et je suis persuadée que pendant les sept ans qui séparaient 80 de 88, François Mitterrand a pensé à une formule qui pouvait autant faire mouche que vous n'avez pas le monopole du cœur, que lui avait dit Giscard d'Estaing. Et effectivement, il a trouvé. Il a dit, c'est dommage que vous soyez, vous, l'homme du passif.
Alors, on va la réentendre, justement.
Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
Michel Cotta, vous êtes à ce débat. Quand vous entendez François Mitterrand dire ça, vous vous dites, ça y est, il a gagné ?
On ne peut pas tout de suite, parce que on se rend pas compte, mais lui en tout cas s'est rendu compte qu'il avait déstabilisé Valéry Giscard d'Estaing, et d'ailleurs ça aussi j'en ai eu un peu l'impression, mais après il pouvait rebondir, Valéry Giscard d'Estaing, mais non, finalement François Mitterrand a fini par gagner, d'autant qu'il a ajouté presque à la fin de l'émission, où Valéry Giscard d'Estaing lui a demandé d'un air un peu de professeur s'il connaissait le cours de Marx, qui était la monnaie allemande. Et là, Mitterrand a dit « Je ne suis pas votre élève ». Donc, les deux mises à bout ont fait que Valéry Giscard d'Estaing a beaucoup souffert pendant ce débat. Moi, personnellement, je n'avais pas trouvé François Mitterrand étincelant ce jour-là. Mais enfin, il a gagné sur 2 formules.
On brode beaucoup, évidemment, sur ces débats, Michel Cotta. C'est 8e, ce soir. Mais est-ce que, selon vous, un débat a été décisif dans le vote final ?
Écoutez, je pense que celui de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand a été décisif parce qu'il était très serré.
En 81 ?
En 81. Il était très serré. On ne savait pas qui... Au moment où il parlait, on ne savait pas qui avait la majorité, enfin qui, dans les sondages. Donc, effectivement, s'il avait fait quelque chose de raté, oui, ça se serait vu, et Valéry Giscard d'Estaing aurait sans doute gagné. Mais là, je sais qu'en quittant l'émission, François Mitterrand m'a dit « Je ne sais pas si j'ai gagné, mais je sais que je n'ai pas perdu. » Et c'était vrai.
Jean-Daniel Lévy, quand on regarde l'opinion, est-ce qu'un débat a déjà changé quelque chose ?
Sur le débat de 81, effectivement, je rejoins entièrement ce que dit Michel Cotta. Il faut rappeler peut-être deux aspects, c'est qu'il y avait quand même beaucoup moins d'émissions de télévision, beaucoup moins d'exposition de la part des responsables politiques dans les médias. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y avait un nombre de téléspectateurs qui était nettement plus important à cette époque que ceux qu'on pouvait avoir, notamment par exemple
au cours
30 millions de téléspectateurs, si je ne me trompe pas, 16 millions au cours du dernier débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, sachant qu'on a plus d'électeurs en plus qui sont arrivés entre temps. Donc ça veut dire en proportion moins de personnes qui regardent ces débats-là. Il va y avoir également un rôle extrêmement important, pas uniquement du débat, mais également des commentaires qui vont être faits par la suite. Et si effectivement un certain nombre de journalistes ou de téléspectateurs peuvent réagir, soit une petite phrase, soit une posture, c'est également le commentaire qui va en être fait le soir même et le lendemain qui peut avoir une incidence sur le comportement électoral des électeurs.
Michel Cotta, est-ce que vous trouvez qu'il y a plus d'engouement autour de ces débats, ou en tout cas j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'on en parlait en 81 ou 88 ?
Oh non, non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, le chiffre des auditeurs, des téléspectateurs l'ont montré. C'était une telle nouveauté en 1981, puisque le premier débat avait lieu en 1974. Donc c'était encore une telle nouveauté, et puis une telle objectif, parce que quand même il s'agissait de savoir si l'alternance socialiste allait arriver au pouvoir. Donc je trouve qu'au contraire, il y avait beaucoup plus d'attente de ce débat final. Tandis que là maintenant, les candidats s'expriment tout le temps, partout. On n'a pas l'impression qu'ils peuvent nous dire quelque chose vraiment ce soir. On a l'impression qu'ils peuvent avoir une formule. Et que c'est sur cette formule, plutôt que sur leur programme, qu'on négociera demain, qu'on dira, les uns diront c'est très bien, les autres non. Voilà. Donc les commentaires, effectivement, auront autant d'importance que le débat. Mais je ne peux pas dire que le débat est plus d'importance aujourd'hui qu'il y a quelques années, qu'il y a 40
Michel
ans.
Michel Cotta, qui est avec nous, et elle va rester avec nous. Vous êtes recordman, et je pense que vous allez garder votre titre encore très longtemps, puisque
maintenant, je ne sais pas.
Deux fois, vous avez arbitré ce débat de la présidentielle, et on continue la discussion après la pause. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont sur les réseaux sociaux.
Je parle du parti de l'extrême
droite. Les envahisseurs.
Et 5 ans après l'échec de 2017, Marine Le Pen espère bien prendre sa revanche ce soir face à Emmanuel Macron. On continue bien sûr d'évoquer ce débat d'entre-deux-tours, toujours avec Michel Cotta, Jean-Daniel Lévy et puis Thomas Després, William Galibert du service politique. Michel Cotta, d'abord, d'après vous, quel est le piège dans lequel chacun des deux candidats ne doit pas tomber ce soir ?
Je crois que Marine Le Pen doit faire peur de compétences et Emmanuel Macron doit éviter ce qu'on appelle l'arrogance, mais en tout cas, il peut pas se permettre d'ironie trop féroce. Bref, il sera obligé d'être plus nuancé, parce que la première fois, il était tout nouveau, on le connaissait pas. Donc, il n'avait pas de preuves à faire, et puis il pouvait être arrogant, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien dire à Marine Le Pen, écoutez, ne vous trompez pas de dossier, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué, sans doute parce que Marine Le Pen a mieux appris ses dossiers, je suppose, et aussi parce que toute réaction trop franche, trop brutale d'Emmanuel Macron serait peut-être mal vue.
Et Jean-Daniel Lévy, vous avez pour Harris Interactive réalisé une enquête sur l'image des deux candidats. Quels sont les points forts et points faibles de chacun ?
Mais ce qui est assez surprenant, c'est que, pour reprendre justement sur ce que disait Michel Cotta, effectivement, en termes de compétences, aujourd'hui, Marine Le Pen est un peu moins bien jugée qu'Emmanuel Macron, mais un peu moins bien uniquement. Et elle a parcouru une évolution considérable par rapport aux enquêtes que nous avions menées en 2017, par exemple, qui était une vraie faille de sa part. Et là, aujourd'hui, c'est plus forcément le point sur lequel elle est profondément critiquée. Et là où elle a un avantage par rapport à Emmanuel Macron, c'est sa capacité aux yeux des Français à pouvoir décrire le réel. C'est-à-dire que quand elle parle d'une situation, quand elle décrit la manière dont vivent les Français dans le cadre du quotidien, je ne parle pas des propositions, mais déjà de l'état des lieux, elle apparaît comme étant en capacité déjà de pouvoir dire quelque chose qui parle immédiatement à nos compatriotes. Et puis il y a un point supplémentaire qui nous a surpris dans le cadre de l'enquête que nous venons de réaliser, c'est que quand on demande, est-ce que d'après vous, Emmanuel Macron est en capacité de pouvoir mener à bien son projet si jamais il devait demain être élu président de la République. Et même question pour Marine Le Pen, il y a une plus grande crédibilité qui est accordée aujourd'hui à Marine Le Pen dans sa capacité à pouvoir faire ce sur quoi elle s'est engagée. On parle souvent en fait d'une forme de critique à l'égard des responsables politiques ou de remise en cause de la sincérité de leurs propos ou du fait qu'ils vont faire des promesses dans le cadre de la campagne et pas forcément mener les choses réellement par la suite. Là, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas dans le cadre de cette enquête et que c'est un des points sur lesquels Marine Le Pen a profondément évolué au cours de ces dernières années.
Alors, autour de ces débats, il y a toujours les petites phrases, on a entendu plein. Il y a aussi celle-là, ça c'est 88.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
C'est peut-être, Michel Cotta, la punchline la plus célèbre des 7 débats qui se sont joués depuis 1974.
Ah oui, parce que c'était en quelque sorte la plus directe. Et tout le monde a immédiatement vu que l'ironie est l'espèce de cruauté, au fond, de François Mitterrand. C'est une période où les deux se détestaient. Depuis 2 ans, ils avaient fait attention à ne pas apparaître trop adversaires l'un contre l'autre, puisque Jacques Chirac était Premier ministre de François Mitterrand. Mais là, d'un coup, dans cette émission, je crois que toute leur rancœur s'est déversée. Et il n'y a pas seulement sur cette petite phrase qui a fait mouche, mais après, il y a eu un vrai débat sur est-ce que vous m'avez menti ou
avec
non.
Avec Gorgi, le débat le plus tendu peut-être de l'histoire.
C'était le débat le plus tendu. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de réplique plus sidérante, plus rapide, plus courte que celle de François Mitterrand disant oui, monsieur le Premier ministre, vous avez tout à fait raison, monsieur. C'était
et dans l'affaire
vraiment
Gorgi,
effectivement
il avait dit
percutant.
Dans les yeux, je la conteste.
Mais c'est réparti aujourd'hui. Voilà, celle-là est mythique. Tous les candidats courent après la répartie qui tue. Emmanuel Macron, il a un petit carnet. On lui a fait des petites fiches avec des exemples. Certains de ses conseillers, il en a trouvé. Lui aussi a réfléchi, mais on sait aussi que les meilleures réparties souvent ce sont
celles qui viennent toutes
seules. Il faut faire attention que ce ne soit pas artificiel. Voilà. Michel Cotta, on parle des candidats, c'est bien normal, mais on peut parler de nos confrères et consoeurs parce que c'est un marqueur dans la vie professionnelle et une forme d'honneur, hein, disons-le, d'animer ce débat. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à Léa Salamé? J'observe d'ailleurs que très souvent, dès le début d'ailleurs, la parité a été respectée avec Jacqueline Baudrier en 74 et puis vous ensuite à deux reprises. Un conseil?
Vive la parité. Non, pas le conseil. Je crois que ça n'est pas pour des journalistes l'occasion de se mettre en valeur. Au fond, leur boulot, c'est de mettre en valeur ceux qu'ils interviewent ou ceux qui sont devant eux. Alors c'est quelque chose, peut-être vous dites honorifique, mais finalement, professionnellement,
c'est une reconnaissance.
C'est pas le plus intéressant professionnellement. Enfin,
voilà, voilà,
plus épanouissant.
C'est formidable d'être là. On est très content, mais enfin, on a surtout à arbitrer et à éviter les dérapages de temps. On a aussi, vous savez, le chronomètre sous les yeux. Bon, donc c'est pas une prouesse de journaliste, vous voyez. Mais
c'est un marqueur, disons, de la vie professionnelle.
Voilà, si vous voulez.
Jean-Daniel, on parlait des petites phrases tout à l'heure. On se souvient du moi président de François Hollande. Et vous nous avez dit que ça n'a pas forcément percuté auprès des téléspectateurs.
Non, c'est le risque en fait de ce qui apparaît au sens négatif du terme comme étant de la com. Et en fait, les électeurs nous ont dit, tiens, là, on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment travaillé. On a vraiment l'impression qu'il fait ça pour utiliser un argument. Et puis enfin, il disait moi président, alors que c'était un des aspects sur lesquels il y avait les critiques le plus marqué à l'égard de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la gestion personnelle du pouvoir et qui n'était pas forcément en partage.
Un dernier mot, Thomas Després, jusqu'au bout, Marine Le Pen compte préparer tout ça?
Elle n'arrivera pas à rincer comme il y a 5 ans, ça c'est sûr. Elle a quitté la Normandie hier soir où elle s'est préparée, selon les informations de Marie Mollet. Elle est maintenant chez elle, à la Selle Saint-Cloud. Elle a profité de cette mise au vert pour souffler, faire une petite balade, prendre le soleil. Aujourd'hui, elle va se reposer, objectif vraiment, arriver en forme pour une visite du plateau en toute fin d'après-midi.
Merci.
Merci beaucoup, Michel Cotta. Vous serez devant votre poste ce soir, j'imagine.
Oui.
Merci.
En effet.
Merci beaucoup. Il est 12h58. Merci à tous. Les auditeurs dans une seconde. Et les auditeurs vont pouvoir intervenir sur le débat de ce soir.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h.
Jusqu'à 14h30,
les électeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pierre-Antoine est avec nous. Bonjour. Pierre-Antoine, vous êtes étudiant en droit, master. Ce soir, vous serez devant votre poste de télévision, seul, en famille, avec des amis?
Avec des amis, avec des collègues de mon master. On va regarder tout ça en avis.
Bon, la difficulté, c'est d'écouter, parce que les commentaires, parfois, sont plus importants que ceux que les candidats qui sont en train de parler. Le rappel des titres avec Amandine.
Et ce débat, bien sûr, il sera à suivre sur RTL et RTL.fr. Édition spéciale, hein, dès 19h15, autour d'Éric Brunet et de Benjamin Sportouche, à 21h. Le débat, et puis ensuite, décryptage, réaction. Bref, vous ne manquerez rien. Débat au cours duquel, bien sûr, il sera question de la guerre en Ukraine, alors que Mariupol semble sur le point de tomber aux mains des Russes. Charles Michel, le président du Conseil européen, est à Kiev. L'histoire n'oubliera pas les crimes de guerre, a-t-il dit. D'après l'ONU, ce sont désormais plus de 5 millions d'Ukrainiens qui ont fui le pays depuis le début de ce conflit. Puis nous sommes le 20 avril et un bout de France s'est réveillé ce matin sous la neige. Neige abondante, hein, même dans les Pyrénées-Atlantiques, le Béarn notamment. Elle est arrivée hier, tient au-delà de 1200 mètres d'altitude. C'est assez rare, mais pas exceptionnel. Écoutez Pierre, il est dameur de piste à la Pierre Saint-Martin.
Oui, il y a 35 cm de poudreuse. Ben, c'est magnifique. C'est jour blanc pour l'instant, parce que justement, je travaille dans la neige, donc j'y suis en continu. Tous les arbres sont blancs, les branches croulent sous le poids de la neige. C'est féerique, c'est comme Noël.
Comme Noël, en 20 avril. Des propos recueillis pour RTL par Philippine de Clermont-Tonnerre. Notre météo, justement, avec vous, Peggy Broche. Donc, de la neige, on l'a bien compris, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouais. C'est rare que ça tienne à cette période de l'année, hein, à si basse altitude. C'est toujours très doux, sinon, sur une grande partie des régions.
Exactement, Amandine, on est souvent autour des 20 degrés. Alors, un peu plus frais sous les pluies dans le sud, par exemple. On a 12 à Tarbes, 13 à Biarritz, 14 à Toulouse, ainsi qu'à Bordeaux, Cherbourg, 17 degrés à Montpellier, 18 19 à Lille, Rennes, Tours et Toulon, 20 à Paris, Mulhouse et Montélimar, 21 à Lyon, 22 à Grenoble et Ajaccio. Alors, sur toute la moitié sud, c'est bien arrosé avec des pluies parfois soutenues, voire orageuses, notamment vers le Languedoc-Roussillon. Vous l'avez dit, de la neige à moyenne altitude sur les Pyrénées, mais on aura également de la neige en altitude sur les Alpes et des pluies plus éparses dans le sud-est et la Corse avec du vent. Sur la moitié nord, entre le nord des Alpes, la Bretagne et les frontières du nord, là c'est un temps beaucoup plus sec, lumineux, et plus on va vers les frontières du nord et plus on a du soleil.
Et demain, même programme, c'est ça?
Même programme, en gros, encore pluvieux sur toute la moitié sud et sec et lumineux sur la moitié nord, avec encore beaucoup de pluie sur le Pays Basque, ça, les cumuls seront assez importants, sur le Roussillon également, et puis des pluies soutenues, notamment dans l'après-midi en Corse, même si les sols en ont besoin d'eau, là en 24 heures en Corse par exemple, on aura l'équivalent d'un peu moins d'un mois de pluie, donc situation à surveiller, le tout sous des températures qui resteront douces et stationnaires le matin comme l'après-midi, de 12 à Tarbes pour la maximale à 20 à Paris, Lyon, Reims, Strasbourg, Marseille, 19 à Rennes, 17 à Bordeaux, Montauban et 16 à Brest.
Merci Peggy.
Merci Peggy, merci à Amandine, merci à Ludovic van de Kerkhove qui était à la rédaction de ce 12h30. Il est 13h04, H-8.
Les électeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
C'est à 21h ce soir qu'a lieu le grand débat. Nous sommes avec Pierre-Antoine, qui est donc étudiant en master droit et qui va regarder avec des amis, quoi, des amis, des collègues de la faculté.
C'est ça. Entre juristes, on va essayer de voir ce qu'on pourra critiquer.
Vous êtes combien devant la télévision?
On sera bien 6-7 quand même ce soir.